Bien, bonsoir à tous. Nous voilà repartis pour une petite webconf où il n'y a pas eu, on va dire, trop de questions et j'en profite pour mettre un petit peu tout sur la même bande, on va dire, hein. Voilà, donc on va commencer par une question de Françoise concernant le dopage vibral. Tu as dit que tu devais faire 144 dopages vibrales. Pourquoi? Et est-ce que les personnes qui ont reçu auront un rôle particulier à jouer? Ça m'inquiète un peu dans la mesure où je ne sais pas si je serai à la hauteur dans ce cas-là. Et puis, entre parenthèses, en écrivant, je prends conscience que tout est juste, pas d'inquiétude à avoir, un effet du dopage vibral, n'est-ce pas? Alors, la réponse est relativement très simple, puisque vous savez que j'ai déjà quand même suffisamment parlé du cube. Et donc, il faut savoir que les 144, c'est 2 fois 72. C'est-à-dire que moi, j'en ai 72 à faire. Et notre très chère Corinne en a 72 aussi à faire. Alors, pourquoi 72? Eh bien, la réponse est relativement simple. Eh bien, vous savez que pour nos 6 premiers cornes, hein, ça équivaut à 6 cubes, hein, eh bien, ces 6 cubes, chacun des cubes ont 12 arêtes. Donc, quand vous faites 6 fois 12, eh bien, vous arrivez à 72. Tout simplement. Donc voilà la réponse, elle est juste, c'est de la géométrie, on va dire sacrée, entre guillemets, et c'est tout aussi bête que ça. Alors il faut savoir que ces 72 arêtes, qui correspondent donc aux 12 arêtes des 6 premiers cubes, des 6 premières dimensions, c'est-à-dire de votre véhicule d'incarnation masculin, c'est-à-dire là où il y a le soi inférieur, eh bien correspond en fait à vos 72 anges. Voilà. Pour avoir répondu donc à la question de Françoise. Donc toutes les personnes à qui j'aurais fait donc un dopage vibral n'ont absolument rien à redouter de quoi que ce soit, puisqu'il n'y a absolument rien à faire, et il ne leur est rien demandé, sinon d'avoir, on va dire, accepté de jouer au cobaye, on va dire. Hein, puisque c'est une condition minimale. C'est 72 pour qu'on puisse ensuite éventuellement passer, on va dire, au phénomène de groupe. C'est-à-dire que l'on ne soit plus obligé de faire les personnes une par une. Donc, c'est pour bientôt, hein. On va dire que, on va dire, en date d'aujourd'hui, je dois avoir à peu près une cinquantaine au compteur. Donc, on va dire que d'ici, on va dire, grandement la fin du mois, j'aurais fini ma partie des 72 et Corinne aussi, mais quand même sur, on va dire, sur la lancée, nous allons continuer toute la longue liste qui reste, en espérant qu'on y arrivera quand même tôt ou tard, parce que je vous dis quand même que à la longue, c'est pas fatigant, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Bien. Maintenant, je vais continuer sur les autres questions. Une question de Pierre 11. Concernant le solstice 2014. J'ai lu des sites qu'un portail s'ouvre entre le 13 et le 20 juin et sur la voie des sages que le solstice du 21 juin sera très puissant, plus que d'habitude. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a, on va dire, un nouveau portail d'une certaine manière, et nous l'avons très fortement ressenti sur la France par toutes les séries d'orages qu'il y a eu il y a, il y a, on va pas dire quelques jours, mais une semaine au grand maximum. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le soleil a très 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 fortement irradié la Terre, et qui faisait que, quand arrivait le soir, eh bien, toute la chaleur et toute l'information qui avait été reçu par moment entier, remontait dans les hauteurs, d'où des séries d'orages violents, mais aussi, on va dire, de coups de vent assez phénoménaux. Donc, tout ceci n'était que la partie, on va dire, physique, visible, que, effectivement, ce 21 juin est un portail très, très, très important. Je rappelle que c'est l'an 2 du Nouveau Monde, hein, que c'est la moitié de l'an 2. Donc, d'une certaine manière, on va dire qu'au niveau des codes, et c'est pour ça qu'on va, plus nous allons avancer dans le temps, et plus je vais vous parler, on va dire, des fameux codes, et de ce qui se passe par rapport à un moment où on tient là et là. Alors, je continue le commentaire de Pierre. Le prochain solstice se démontrera particulièrement puissant et actif du fait qu'il portera les énergies d'ensemble qui assureront toutes les transformations des prochaines années, notamment l'accès à une nouvelle spire évolutive que d'autres appellent une nouvelle ligne de temps. Oui, c'est bien le cas, vous allez sortir d'une spire de la grande spirale cosmique pour entrer dans une toute nouvelle. Entre autres, ce passage intensifiera l'énergie vitale, le feu intérieur, qui imposera chez tous les êtres humains un ajustement vibratoire à la hausse, changeant, comme de force, autant la fréquence individuelle que collective et planétaire, et imposant à tous un nouveau positionnement de nature à assumer partout un mieux-être et une plus grande vérité. Cette question n'a rien à voir avec la thématique que tu as proposée, mais est-ce que tu as des informations nouvelles sur ce qui nous attend à court terme, au plan intérieur et extérieur également, et où en est Maman Urantia Gaïa Eléa de son avancée? Alors je vais me permettre de vous en dire un tout petit peu plus long, effectivement. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a de nouveaux codes qui sont arrivés et qui ont pour objectif d'être implantés sur Terre d'une manière, on va dire, directe. On va dire via les rayonnements, hein, les rayonnements de Papa Soleil, de la Lune et aussi de Maman Urantia d'une certaine manière, et d'une manière aussi on va dire indirecte, c'est-à-dire par rapport à tous les individus qui marchent sur cette Terre. Et c'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de l'eau et des cristaux, parce que vous allez voir que tout ceci ne sont que des opérations qui se font en parallèle, et j'ai écrit d'ailleurs un article aujourd'hui qui paraîtra lundi à ce propos, et il faut qu'on voit la construction du nouveau monde comme la construction d'une maison. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous sommes, on va dire, dans l'an 2 hein, de la nouvelle Terre, c'est-à-dire que nous sommes au deuxième chakra. Le deuxième chakra est une vibration, et ce deuxième chakra appartient au moteur de la Terre. Donc tout ce qui se passe pendant cette année 2014 va avoir une influence vibratoire énorme, d'où cette notion de code qu'il va falloir, on va dire, ingurgiter. Donc autant l'année 2013 avait été l'année qui correspondait, on va dire, au premier chakra, à la matière, à l'argent, et on a vu que ça a fait des dégâts dans le système financier, eh bien ce qui a trait à cette année est une notion vibratoire. Donc effectivement, l'humanité s'en prend plein les cellules, on peut dire, et c'est vibratoire, c'est-à-dire que les gens comprennent ou ne comprennent pas ce qui se passe, ça passe pas par la cause mentale, ils vont avoir une hausse, on va dire, vibratoire, pratiquement impossible à éviter. La seule façon de l'éviter, ça sera d'aller au cimetière. Donc, degré ou de force, de toute façon, nous sommes absolument toute forme de vie qui est à la surface de la planète, est obligé de suivre la montée en fréquence de Maman Urantia Gaïa Eléa. Alors comme vous le savez, eh bien à chaque fois qu'il y a, on va dire, des équinoxes, voire des solstices, ce sont des choses, des inversions de courbe, on va dire, d'une certaine manière. Et donc le 31 mars, enfin le 21 mars avait été une date de départ, hein, dont on a parlé sous la forme de la porte d'harmonie. Eh bien, autant le 21 juin va être à la fois une pause et un départ. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que la porte d'harmonie a été véritablement, on va dire, ancrée, hein, c'est-à-dire qu'on a arraché la porte pour pas qu'elle se referme, le 17 mai. Hein. En clair, maintenant, toutes les énergies peuvent venir et plus rien ne peut les arrêter. Et donc forcément, eh bien, vous avez pu le constater ces derniers jours, que la pleine lune avait un effet assez bizarroïde, et effectivement, ça m'a même aussi fait écrire un article que vous avez, je pense, la majorité lu, concernant si j'allais continuer ou pas, parce que effectivement, ce sont des moments de forte énergie qui peuvent des fois remettre en cause quelques intentions. Mais bon, cette nouvelle lune est bien sûr associée, et d'autant plus forte qu'elle est associée aussi donc à ce solstice d'été. En clair, maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau du cordon d'Eléa? Eh bien, le cordon d'Eléa va être normalement agrandi de nouveau. Hein, on continue l'œuvre on va dire, de reconnexion, parce que vous pouvez imaginer que plus nous allons avancer dans le temps, plus le cordon devra être agrandi, et donc aussi de ce fait, il y aura de plus en plus, on va dire, de vortex, entre guillemets, à rééquilibrer et à connecter, on va dire, à la spirale du cordon des liens. Je dis ça parce que les gens n'ont pas toujours conscience que c'est comme une lampe. Si vous mettez une lampe à 10 watts, eh bien, vous n'avez pas besoin d'un trop gros fil. Mais si vous voulez la monter à 50 watts, il faut s'assurer quand même que le fil soit conséquent et que le secteur puisse fournir l'énergie. Alors, si vous la montez à 500 watts, il est évident que si l'énergie n'est pas là pour pouvoir le permettre, eh bien, ça ne brillera jamais suffisamment. Dit autrement, plus le cordon de Maman et Léa va s'agrandir et plus il va falloir, entre guillemets, que que la grille cristalline soit de plus en plus opérationnelle et avec, bien sûr, de plus en plus de vortex. D'abord, reconnecter correctement à la grille, premièrement, et deuxièmement, vous pouvez comprendre que le réseau cristallin va monter en fréquence et donc en puissance aussi par la même occasion. Donc, c'est un petit peu à l'image du cordon, on va dire, entre un nouveau-né et sa mère. C'est qu'au départ, quand il a quelques jours, le cordon il donne pas grand-chose. Mais plus le fœtus va se développer et plus il va falloir alimenter, les petits pieds qui sont en train de venir. Eh bien, c'est la même chose par rapport au cordon des Léas. C'est-à-dire que plus le cordon des Léas va grandir et plus il va falloir que la grille cristalline puisse, entre guillemets, supporter cela. Or, pour supporter, eh bien, il va falloir apporter des réparations. Parce que je vous rappelle que l'aventure humaine, la culture humaine, l'industrialisation humaine a fait que nous avons quasiment massacré ces grilles cristallines et qu'elle est devenue, on va dire, un vrai gruyère au niveau terrestre. Donc, il y a du boulot en arrière-plan. Mais l'un est indissociable de l'autre. Donc, c'est pour cela que je vais vous parler de l'eau à la fin de cette conférence, parce que c'est un élément important, car nous sommes d'abord sur une planète d'eau. Or, vous savez qu'il y a un lien entre la grille cristalline, puisque c'est du cristal, avec tout ce qui touche le cristal, hein, et donc particulièrement le cristal de roche, puisque lui, il est complet, hein, il n'est pas limité à une couleur. Eh bien, et aussi, par rapport aux entités cristales, nous sommes d'accord, tout en sachant que l'eau est un cristal liquide. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de lancer une nouvelle opération, et bien sûr, chaque lecteur, chaque lectrice, chaque humain qui est sur cette terre, eh bien, s'il participe, va aider grandement, on va dire, à l'ascension de Maman Aurantia Gaïa, et donc, bien sûr, à une difficulté un peu moindre pour l'humanité à pouvoir poursuivre la montée en fréquence. Car vous imaginez que l'eau aujourd'hui est l'élément le plus contaminé qu'il y a sur la planète et aussi le plus destructif parce qu'il est encodé par des informations absolument disharmonieuses, incohérentes. D'où cette fatigue que nous avons et surtout cette vieillesse et cette non-combativité. Donc, en prenant le problème de l'eau à bras-le-corps, non pas ceci, non pas cela, selon la version des écolos, quoi qu'ils aient pas tort, eh bien, on va mettre un accent sur l'information qui est à l'intérieur de l'eau. Alors, bien sûr, l'eau, il faudra qu'elle soit, on va dire, dépolluée d'abord. Parce que si vous mettez de l'information sur une eau qui est complètement polluée, ça va peut-être faire quelque chose, mais pas grand-chose. Donc ça, j'en reparlerai, on va dire, dans la deuxième partie de l'année prochaine. Donc, pour répondre à Pierre, il y a aujourd'hui un certain nombre d'actions qui sont lancées, et on verra que si chacun y met du sien, eh bien, ça peut aller vraiment, vraiment très vite. Hein? Bon, je vais continuer à évacuer les autres questions par rapport à l'eau, mais les autres questions qu'il y a à côté, et après je reviendrai à l'eau. Donc, nouvelles énergies, champ intuitif et cognitif. Une question de Gino. Salutations. Lundi, j'ai fait une syncope pendant mon travail. Pourtant, je n'ai pas de soucis de santé particuliers, même si je suis bien fatigué en ce moment. Puis, j'ai repris mon travail, et toute la semaine, bien. J'ai le profond ressenti que c'est lié avec les nouvelles énergies. Pendant l'évanouissement, j'ai entendu des voix sans savoir quoi. Puis, par après, je voyais tout en blanc luminescent pendant la conduite de mon véhicule. Je précise pour signifier que j'étais conscient de mon état. Pour ma part, il n'est pas utile de voir le tout vif, je vais dire. Je pense plutôt à un reset. D'autre part, quelle est la différence à être en pure conscience et être dans son champ cognitif et intuitif? Alors, la profonde, on va dire, vibration qui pour l'instant nous est envoyée par tout l'univers fatigue énormément notre corps physique. Parce que maintenant, c'est, comme dirait l'autre, du marche ou crève. C'est bon. Je sais que c'est pas toujours plaisant à dire, mais de toute façon, votre corps, lui, suit ce qui se passe au niveau, on va dire, cosmique et vibratoire, quoi que vous pensiez, que vous soyez d'accord ou pas, lui suit la musique. Il dit, voilà, j'étais, par exemple, dans un do, ben maintenant, on me demande de jouer du ré, ben je vais jouer du ré. Même si l'autre, le mental ego, il veut rien savoir, de toute façon, moi, je suis la musique, car moi, le corps physique, je suis maman Eléa, je suis maman Urantia Eléa, je suis la terre, je suis la matière qui lui appartient. Et comme maman Urantia Gaïa augmente sa fréquence, eh bien, moi, je suis. Voilà pourquoi vous pouvez bien sûr avoir de nombreux malaises. Donc vous serez obligé d'une manière ou d'une autre, mais ça sera d'une manière naturelle, obligé d'arrêter de manger certains aliments, de boire certaines boissons, et vous verrez que progressivement votre corps vous dira, parce que si vous ne suivez pas sa musique, c'est simple, vous irez au cimetière plus vite que prévu. Bien, alors maintenant revenons à une chose très simple. Quelle est la différence à être en pure conscience? Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire être en pure conscience. Déjà, parce que l'aspect bisounours est important à ce niveau-là. Ensuite, être dans son champ cognitif et intuitif, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous verrez que dans la réalité, quand vous êtes dans votre champ cognitif et intuitif, vous êtes en pure conscience. Et votre conscience n'est pas un état mental, c'est un état d'être. Et vous ressentez votre propre vibration en action. Donc aujourd'hui, il y a une règle très simple, enfin aujourd'hui depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, nous ne sentons pas notre corps véritablement vibrer. C'est calme, voilà, et on dit c'est normal. Par contre, quand ça commence à vibrer de partout, on dit chouette, ça fait du bien, et j'aimerais bien que ça continue. En fait, les vibrations que nous recevons sont là pour nous réveiller. Et donc, dans la réalité, l'état normal, c'est que nous sentions cette vibration en permanence. C'est-à-dire que vous sentez tout votre corps vibrant, et de plus en plus fin, mais il vibre. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus être dans un état où vous ne sentez plus rien. Donc c'est ce qui va venir au fur et à mesure des semaines, et des mois, et des années, selon les individus, c'est que vous allez avoir une carcasse qui va être en vibration permanente. Alors, un certain nombre de gens disent « Ah oui, mais moi j'ai des acouphènes, j'en ai marre, etc. » Dites-vous bien que c'est une remise en eau du véhicule et que ces acouphènes vont durer aussi longtemps que vous êtes en train de redécouvrir la vibration primordiale qui devrait normalement nous habiter en permanence. Donc, pour faire court, votre corps travaille énormément, d'où énormément de fatigue. Et vous pouvez aussi le voir, que vous avez de plus en plus de difficultés à être en contact avec des gens de 3D, voire de 4D, et d'aller au boulot. Et ça, c'est normal, puisque de toute façon, il y a un changement de fréquence. L'objectif, je vous rappelle, c'est la 5D. Donc, tout ce qui appartient pas à la 5D va être mis à mal. Une question de Fago. Peux-tu nous parler de Mu et de l'Atlantide? Eh bien, je ne vais pas vraiment le faire. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé pas mal. Mais le truc, c'est que tout ça, c'est des choses qui seront abordées au fur et à mesure que nous avancerons. J'en avais déjà parlé pas mal, on va dire, du temps de Monsieur Bleu. J'en parle pas mal quand je rencontre les gens aussi. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce que sinon, je vais causer pendant 2 heures juste là-dessus. Donc, je préfère passer aux questions suivantes. sachant que ceci sera abordé de toute façon tôt ou tard, puisque c'est relié au cycle que nous sommes en train de faire. Mais il faudra que je vous donne quelques explications complémentaires avant. Alors, une question de Sylvette concernant la 3D. Peux-tu nous expliquer comment se passe la gestion de l'intendance, matériellement parlant, en cette période de transition 3, 4, 5D? Lorsque l'on a les rentrées suffisantes pour honorer ses factures, le mental ego focalise moins sur ces questions. Mais quand ce n'est pas le cas? Pourquoi cette question qui semble terre à terre alors que je n'ai plus à aller travailler? Sûrement du fait que je n'ai pas encore compris comment ça marche et que le poids du matériel est toujours bien présenté. Pour tous. Effectivement, nous sommes toujours dans un environnement de 3D, enfin de matière, on va dire, et qui fonctionne encore selon les règles de la 3D. C'est-à-dire que c'est sûr que si je vais chez le boulanger et je lui dis, ton pain il est bon, tu peux me donner 3 baguettes et je te paierai quand j'aurai le temps, c'est sûr qu'il va peut-être sourire sur le moment, mais globalement il va dire, Nada, je te donnerai rien si tu me donnes rien. Alors peut-être au premier jour il donnera quelque chose en disant, ouais, il blague. Mais s'il voit que tu pars avec les baguettes sans payer, il va se dire, bon, là, je me suis fait avoir. Et c'est sûr que si le lendemain vous revenez, vous allez avoir des amis. Donc, autant avant du temps, on va dire, de nos parents, voire plus, eh bien, il y avait un compte qui était ouvert chez les boulangers. On ne payait jamais la baguette comme ça, comptant à chaque fois. C'est parce que tout le monde avait, on va dire, des trous dans la trésorerie. Donc, comme il y avait des trous dans la trésorerie, eh bien, il y avait toujours un compte qui était ouvert. Alors, je me rappelle quand j'allais faire les courses, quand j'étais gamin, que ce soit la boulangerie, la boucherie, le Spar et tout ça, on n'avait jamais de sous, on disait, voilà, non, un tel, voilà, et puis vous rajoutez. Et donc, ils rajoutaient sur la liste. Et à l'époque, il y avait quand même de l'honnêteté, c'est-à-dire que personne ne donnait le nom de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je crois que ça ne serait pas le cas. Et donc, le système ne peut pas véritablement fonctionner. Parce que nous, c'était les gamins, et on avait quoi, 6, 7 ans, 8 ans, et donc on pouvait mentir tranquillement, et non. Donc on ne pouvait pas, c'était comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que le monde de 3D, 4D, qui va aller vers la 5D, va demander de retrouver des réflexes que nous avions quand nous étions gosses, voire du temps de nos parents. C'est-à-dire que il va y avoir des dons qui seront faits entre les gens, des trocs, et qui vont faire que, globalement, le paiement, comme on dit, au cul du camion, ça va se faire de moins en moins, parce que les gens, eh bien, ils n'auront pas forcément l'argent. Alors, par exemple, je te donne un exemple. Le boulanger dit non, moi, je te donne pas ma baguette, parce que si tu me donnes pas des sous, je te la donne pas. Et tu diras, oui, mais mes patates sont en train de pousser. Et donc, je ne donnerai aucune patate, parce que je peux pas te les donner, ils sont pas encore poussés. Donc il faut que je les laisse arriver à terme, et puis quand ils seront à terme, je verrai, je te ferai peut-être la même chose, en disant, tu veux 500 kilos de patates, très bien, alors tu les payes au cul du camion. Et donc, grosso modo, si je prends cet exemple, c'est simplement pour vous faire comprendre que selon vos activités, selon votre mission sur cette planète, eh bien, vous allez avoir des rentrées d'argent, entre guillemets, quand je dis rentrées d'argent, des rentrées, on va dire, de choses que vous pourrez troquer avec les autres personnes. Mais quand ça joue avec la nature, vous pouvez pas forcer la nature. Donc, le boulanger, eh bien, dira, ouais, je te fais crédit parce que je sais qu'il y a un rang de patates qui m'est destiné. Quand les patates seront prêtes, tu me les donneras. Et il y aura pas d'argent. Donc, je mets ça sur la table comme ça, juste pour faire comprendre comment ça va fonctionner. Enfin, ça va être un des systèmes. Donc, la matière sera toujours là. Donc, croire que la 5D, c'est quitter la matière, est une ânerie monstrueuse. Donc, nous sommes toujours dans la matière, dans un corps de matière, et nous continuerons à manger, nous continuerons à boire, et nous aurons tous besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête pour continuer à dormir. Donc, quel que soit votre état vibratoire. Parce que, un jour, quand vous serez effectivement suffisamment élevé, en fréquence, vous aurez peut-être, on va dire, la maîtrise de votre corps de manifestation, alors oui, là, peut-être, effectivement, vous ne mangerez peut-être plus. Mais ceci ne veut pas dire que vous n'aurez plus besoin de toi. Donc, quelque part, on nous demande de vibrer la 5D, mais de rester ancré, c'est-à-dire de rester connecté à cette matière, car je vous rappelle que nous sommes là pour spiritualiser la matière, c'est-à-dire de faire que toute cette matière qui appartient à Maman Antiagaya, Léa, eh bien, enregistre à travers l'eau tout ce que nous vivons, toutes nos expériences. Donc, si nous quittons ce corps, on ne sert plus à grand-chose. Une question de Brigitte. Peux-tu nous dire qui active les dômes, les crânes de cristal ou les EDLN? Sont-ils tous en fonction? Alors, la réponse est simple, Brigitte. Et ce ne sont ni les crânes de cristal qui activent les dômes, et encore moins les EDLN. Voilà. Donc, juste pour te dire que même si tu as des crânes de cristal, même si tu as des contacts avec des EDLN, tu ne pourras avoir aucun pouvoir sur les dômes, car les dômes sont d'une autre nature et n'ont rien à voir avec la notion de pouvoir que peut avoir le président. Donc j'ai laissé cette question, alors quand je dis Brigitte, c'est pas Brigitte du blog, hein, vous comprenez, hein, c'est une autre Brigitte. Mais comprenez que ces questions puent le pouvoir à plein nez. C'est une personne qui désire, via des crânes de cristal ou des êtres de la nature, pouvoir activer un dôme afin de, excusez-moi, protéger son cul. Ça marche pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Donc je ne donnerai pas plus d'informations par rapport à ces dômes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un dôme? Comment ils sont connectés? Et pourquoi ils ne peuvent pas être n'importe où? Pourquoi donner des informations à des gens qui recherchent le pouvoir? Bien, c'était une petite aparté. Maintenant, allons voir du côté des acouphènes, une question de Christophe. Aussi loin que je me rappelle, j'entends 24 heures, 7 jours sur 7, des sons très aigus, dans deux oreilles et au centre de mon crâne. Depuis ces dernières semaines, ces sons de l'ordre de 4 à 5 se sont non seulement amplifiés, mais sont aussi devenus plus perçants. Ces sons sont vivants et varient en fonction de ma concentration. Je me suis rendu compte, et en parlant avec d'autres personnes, que je n'étais pas le seul à me poser des questions à leur sujet. Pourriez-vous me dire ce qu'ils sont et quoi en faire avec? Alors, vous ne pouvez rien en faire avec, parce que, ni plus ni moins, ces sons sont un petit peu, on va dire, le résultat de certaines frictions dans différents corps, et en même temps, ils sont à l'image, on va dire, d'une perceuse éthérique qui essaye de, on va dire, de déboucher des tuyaux. Hein, si je peux me faire comprendre, comme ça. Hein, c'est-à-dire que, bah, grosso modo, ces sons perdureront aussi longtemps qu'il y aura des bouchons à déboucher, qu'il y aura des tuyaux à déboucher, qu'il y aura du calcaire à faire sauter, et ce sont des sifflements. Vous savez, comme quand vous remettez de l'eau dans des tuyauteries, des fois ça vibre, ça siffle, ça couine. Vous savez, quand vous avez vidé tous les radiateurs et vous remettez en eau. Eh bien, c'est ce qui se passe au niveau de notre corps. Donc, ces acouphènes vont durer le temps qu'il faudra pour que l'eau puisse circuler tout à fait correctement. Ensuite, quand vous aurez atteint une certaine fréquence, un certain niveau, eh bien, vous verrez que ces sons, effectivement, changeront en fonction de, comme tu le dis, ta concentration, c'est-à-dire de ce que tu penses et de où tu portes ton attention. En clair, eh bien, la perceuse se déplace et va aller bosser là où tu portes ton attention. Et tu verras que c'est pas les mêmes fréquences. Donc, globalement, quand on avance, eh bien, les acouphènes, c'est tout à fait normal. Alors, acouphènes au niveau des oreilles, mais bon, il peut y avoir d'autres bruits ailleurs, on est d'accord, mais bon, c'est surtout au niveau des oreilles qu'on ressent le plus. Donc, moi, généralement, les acouphènes, j'en ai très régulièrement, et d'ailleurs, quand ça vient, je suis content, je le dis, ça débouche. Donc, je ne prends pas la tête plus que ça, parce que ça ne sert à rien de toute façon. Maintenant, passons au côté minéral. Une question de SU22. Que penses-tu de la zéolite? Alors, premièrement, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et deuxièmement, je suppose que ça doit être un minéral, une pierre, dans ce goût-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque pierre, si elle a des caractéristiques, c'est parce qu'elle est encodée d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, l'aspect géologique qui a comme dirait l'autre, qui donne une certaine géométrie. Et à l'intérieur de cette géométrie, il peut y avoir bien sûr des vibrations qui ont été encodées. Alors, on peut bien sûr dire voilà, parce que j'ai quand même creusé un peu la question. J'ai demandé quand même aux esprits cristallins, j'ai attendu là, il y a tout le monde qui me raconte tout et n'importe quoi, c'est quoi le vrai du faux? Moi maintenant, j'aimerais avoir une idée un petit peu plus claire de ce qui se passe par rapport à ces cristaux et surtout par rapport aux crânes de cristal qui sont censés pouvoir faire des tas de choses. Et donc c'est là que j'ai appris qu'il y avait, il fallait pas tout confondre et qu'il y avait, comment dire, des protections dans la nature. Car imaginez bien que les pierres enregistrent tout. C'est-à-dire que quand vous vivez dans une maison ancienne ou dans des troglodytes, dites-vous bien que toutes les personnes qui ont vécu à l'intérieur ont émis des pensées, des émotions. Et donc tout est enregistré. Donc quand nos amis, les êtres de la nature viennent nous voir, eh bien, ils pouvaient savoir, surtout notamment notre immortel Wilson, avec qui on avait beaucoup parlé à cette époque, pouvait quasiment connaître l'histoire des lieux. C'est-à-dire, en allant dans n'importe quel lieu où il y avait de la pierre, il pouvait dire, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et puis bon. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé dans un lieu. Alors, ça c'est une chose. Après vous dites, bah oui, mais moi j'aimerais quand même vivre dans un lieu où je me fais pas canarder par toutes les engueulades des 5 dernières générations qui ont vécu sous le toit. Et donc là, c'est posé d'autres problèmes. C'est qu'on nous a dit, oui, il y a des, selon la nature, on va dire des minéraux, eh bien, il y a des natures d'enregistrement différentes. Et généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enregistrement se fait, on va dire, à l'extérieur du minéral. Quand je dis à l'extérieur, c'est-à-dire en surface. Donc, vous savez, c'est comme si vous plongiez la main dans du gasoil, vous avez, ben, vous puez le gasoil. Mais le gasoil, il n'est pas dans votre corps. Il est sur votre peau. Et des fois, il vient s'incruster lourd quand même. Hein, il est difficile de faire partir le gasoil. Eh bien, c'est la même chose pour les matériaux. C'est-à-dire qu'ils sont pollués, hein, mais en surface. Et donc, en ce sens, ils possèdent une information. Donc, quand vous prenez, par exemple, un morceau de minéral XYZ, c'est sûr que s'il a été du côté de Tchernobyl, il va avoir un encodage qui va être très différent que s'il était au fond de la rivière, de la montagne, où il n'y a pas eu de Tchernobyl. Hein, on est d'accord. Donc là, l'information est donc stockée, mais extérieurement sur les minéraux dans la majorité des cas. Ensuite, on sait que chaque minéral a une vibration, une couleur. D'accord? Et donc ça, c'est dû à sa propre organisation géométrique. Donc vous allez avoir, si une pierre elle est verte, eh bien, ça veut dire qu'elle émet sur un rayon vert. Donc si elle émet sur ce rayon vert, eh bien, ça veut dire qu'elle a des particularités, par exemple, de fluidité. Que si vous voulez faire des soins avec quelqu'un, là, une pierre verte va, on va dire, décongestionner localement le problème afin qu'il puisse être traité plus fluidiquement parlant. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a des couleurs bleues, roses, enfin, il y en a plein. Et donc, ça, c'est dû à la structure, c'est-à-dire à la résonance que peut avoir un minéral. Mais ça ne dit rien de son encodage, ce qui est encore une autre chose. Car si, effectivement, vous prenez, je dirais, moi, une pierre, on va dire, allez, je vais pas dire un cristal d'orange, parce que ça, les gens vont se confondre, mais je prends une pierre verte, la même. Je prends, comment, une pierre verte, la même. Que je mets là, en plein centre de la France, et puis une que je mets à côté des piscines de Tchernobyl là-bas ou de Fukushima. Il est évident que la géométrie de ce minéral ne va pas changer, la couleur ne va pas changer. Son information en surface, elle va changer. Mais comme c'est une vibration quand même assez balèze, la radioactivité, il y aura des transformations à l'intérieur. Et donc, même sous des aspects, on va dire, absolument identiques, nous allons avoir deux pierres qui vont être fondamentalement différentes quant à l'information qui va être diffusée. Donc, souvent, les gens me disent « oui, ceci, oui, cela ». Et ils regardent les pierres, ils disent « pas mal ». Si je leur enfilais une pierre quelconque, en disant « écoute, tu la mets dans ta poche, elle a une bonne information, cette pierre, je l'encodais moi-même », je vais même tremper dans la source locale, je fais tout le maximum. J'ai prié, j'ai fait des tas de trucs avec elle, à la rigueur j'ai même fait le feu du cœur, et tu peux le mettre dans ta poche, je te garantis que ça va vraiment te faire avancer. Le seul truc, c'est que cette personne ne sait pas que c'est du plutonium. Ça, c'est pas. Parce que c'est invisible et elle ne le voit pas. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent « programmer des pierres ». Donc, j'ai demandé à un esprit cristallin, donc à Ise, le fameux Ise, qui maintenant commence à être connu sur le blog, j'ai dit « Ise, est-ce qu'un individu peut programmer une pierre? Et peut-elle l'encoder ?» Et m'a répondu « Non ». Il peut bien sûr mettre une information en surface, puisqu'elle est un créateur incarné. Donc il peut, comme n'importe quelle personne qui pique sa colère dans son appart, est en train de balancer l'information sur toutes les pierres de sa maison. Donc c'est une information de surface. Mais cette information de surface n'est pas, on va dire, une source d'information, enfin, c'est pas le code source, véritablement. En clair, eh bien, si un esprit cristallin vient à lire cette information de surface, j'ai la main qui bifioule, eh bien, il va pouvoir éventuellement renvoyer cette information vers une autre pierre, par exemple. Mais ça serait une information extrêmement dégradée, puisque ça ne sera pas le code source. Donc, de ce fait, eh bien, je dis ça à tous les gens qui possèdent des crânes de cristal, n'essayez pas de faire travailler votre esprit cristallin en disant, écoute là, il y a une pierre ou il y a un autre crâne de cristal qui a telle qualité, est-ce que tu pourrais me la choper et puis me l'encoder dans telle pierre? Eh bien, ça, ils ne le feront pas, déjà. Alors, ils peuvent toujours, bien sûr, vous bluffer un petit peu en faisant une petite programmation de surface, mais ils n'ont pas, et pour un certain nombre, l'autorisation de l'écriture intérieure dans un numéro. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un crâne de cristal que vous êtes capable de lui demander, et s'il accepte, bien sûr, d'encoder quelque chose. Mais d'encoder dans la matière, pas à la surface de la matière. Donc là, c'est là que, on va dire que les choses se compliquent et se corsent. Car comment peut-on, à ce moment-là, encoder à l'intérieur d'une pierre, mais quand je dis l'intérieur, c'est-à-dire dans la structure même, et non pas à la surface. Et donc c'est là que j'entrevois beaucoup de grosses questions de la part des bisounours et de tous les spécialistes, etc. Parce qu'ils croient effectivement travailler avec de l'information et pouvoir encoder. Oui, c'est vrai. Ils encodent, mais en surface, et cet encodage, de toute façon, disparaîtra plus ou moins avec le temps, et ne sera pas fiable, déjà. Par contre, s'il y a un encodage dans, à l'intérieur, c'est-à-dire où la protection de l'encodage a été levée, vous avez mis le code source et ensuite vous refermez l'encodage, enfin vous refermez l'écriture, personne ne peut modifier cet encodage. Donc même si vous prenez, bon, par exemple, un cristal de quartz et que vous l'encodez avec une vibration spécifique, de la manière ou parce que vous avez les autorisations pour pouvoir le faire, eh bien, enfin, pouvoir le faire en passant par d'autres entités, parce que aucun humain ne peut faire sauter le verrou de l'encodage du cristal, eh bien, à ce moment-là, ce cristal conservera cette information tout le temps. Et ça sera une information pure. Même si vous le trempez dans un truc de fioul, il sentira le fioul, mais la vibration qu'il dégagera sera toujours pure. Donc, en regardant, nombre de techniques, on va dire, pour purifier l'eau, pour vitaliser l'eau, pour énergétiser l'eau, etc., je me suis rendu compte que c'est un capharnaüm total. Au même titre que la spiritualité, s'il n'y a pas de différence, c'est un bordel total. Et beaucoup parlent du haut de leur, de leur science, et de leurs 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou 50 ans de connaissance des numéros, sans avoir véritablement mis le doigt sur l'essentiel, c'est que aucun humain ne peut encoder un cristal. Il peut l'enrober, mais il ne peut pas l'enrober. Il faut passer par quelqu'un du décor qui a les droits et les permissions de le faire. Donc, un être de la nature peut le faire et à une seule condition, c'est qu'il soit on va dire, un minéral lui-même, entre guillemets, c'est-à-dire un être de la nature spécifiquement dédié au minéral. Donc si vous demandez à un homme d'encoder un cristal, il ne pourra pas faire, puisque lui, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour le végétal, mais pas pour le minéral. Donc il faut parler à des entités cristallines. Ah, là ça se corse. Hein, et les entités cristallines, ils savent très bien que notre monde est basé sur le cristal. Alors croyez-vous qu'ils vont obéir au premier préhumain qui arrive et qui se croit seigneur? Et croyez-vous que tous les esprits cristallins sont capables d'encoder les pierres? Ça, c'est une chose. C'est donc la capacité d'écriture. C'est une chose. Mais ensuite, le code source, c'est qui le donne? C'est pas l'esprit cristallin. Donc, vous imaginez, vous prenez le truc des disquettes. Vous savez, avant, dans l'informatique, il y avait des disquettes. Et il y avait un petit curseur, entre guillemets, sur le disquette 3 pouces et demi, qui interdisait l'écriture. Donc, on peut dire qu'un esprit cristallin, eh bien, il y en a certains, et pas d'autres, qui ont la capacité de pouvoir écrire sur la disquette. Mais si vous leur refilez pas l'information, qu'est-ce qu'ils vont écrire? Rien. Donc, il faut deux éléments pour pouvoir encoder un cristal d'une manière permanente. Parce que, plus toujours, je vais rencontrer certainement des centaines et des milliers de gens qui disent « mais moi j'encode », j'irai très bien. Ça va durer combien de temps et quelle est la nature du code? Voilà. Donc, il faut savoir poser les vraies questions. Mais bon, ça, on verra avec le temps. Et je vous dirai, à fur et à mesure qu'on va avancer dans cette expérimentation, il est beau de sortir la théorie, mais en fait, c'est l'aspect pratique qui va faire la différence. Voilà. Donc, si un cristal est encodé véritablement, non pas à la surface, mais à l'intérieur, et que le code source est pur, eh bien, vous verrez tout de suite la différence. Et donc, c'est en cela que je vais aborder maintenant la notion de l'eau et de ce qui nous est demandé de faire. En effet, si je vous donne un cristal encodé, vous allez me dire, ouais, alors Neuros la joue encore comme les autres, de toute façon, qu'est-ce qui dit qu'il fera mieux que les autres, etc. C'est simple. Vous la balancez dans la première maracana que vous voyez et vous laissez faire. C'est tout. Si vous voyez que la maracana commence à s'éclaircir, que commence à y avoir des libellules, que les poissons, maintenant, vous les voyez, que la vie revient, et que, il y a des êtres de la nature qui commencent à revenir, vous dire, attends, c'est peut-être pas des conneries qu'ils racontent. Par contre, celui qui dit, mais moi aussi, je sais faire, vous balancez son caillou dans la mare, dans une autre, si possible, à peu près dans les mêmes conditions, puis vous verrez bien le résultat. On verra bien le résultat. Donc, la démarche que j'ai commencé à entreprendre est une démarche, on va dire, de long terme et excessivement pragmatique. Donc, c'est en cela que vous allez pouvoir nous aider, si vous le voulez bien, bien sûr. Alors maintenant, je vais prendre le commentaire de Garcia. Bonjour Laurent, je suis tes publications aussi régulièrement que possible depuis un bon moment déjà. J'ai une sensibilité qui m'offre une facilité à me connecter à l'eau et m'en sers donc pour augmenter la vibration de celle que je consomme. Eau, autres liquides et légumes, etc. J'ai vécu certaines expériences intérieures en relation avec l'eau qui m'ont offert une conscience très claire sur le fait que l'eau est le médium par lequel nous pouvons tout changer par l'augmentation de sa vibration. Je suis par ailleurs fort bien renseigné sur la question de l'eau pour, d'une part, avoir distribué des systèmes 3D, d'autre part, pour suivre ceux qui s'y intéressent de près depuis un bout de temps, et avoir enfin lancé une campagne nationale d'information sur la qualité de l'eau de consommation que nous souhaitons d'ailleurs relancer en septembre avec l'ami qui m'a aidé sur cette action. Nous en reparlerons ensemble si cela nous semble juste et utile pour le service. Je me permets à ce sujet de préciser que je suis en résonance avec toi, comme avec d'autres encore trop peu nombreux, sur la notion de service, et donc de non-business ou minimum, pour maintenir le support 3D du service, c'est-à-dire toi, la maison, la voiture et l'ordre. et aussi sur ton approche humoristique, analogie, métaphore, de la vulgarisation que tu proposes via tes sites web. Cela me permet de diffuser avec plus d'efficacité ce type d'infos. Bref, l'approche que tu proposes pour augmenter la vibration de l'eau est pertinente, selon moi. Mes questions. 1. Ressens-tu comme juste que nous puissions projeter des actions collectives dans les mois qui viennent pour agir localement par petits groupes sur la qualité de l'eau des rivières, des réserves d'adduction d'eau, etc. Moi, j'ai envie de le faire avec les lampadaires du Lot et des alentours. La relance de la campagne d'information sur la qualité de l'eau doit d'ailleurs proposer cela dans l'idée que je m'en fais. Alors, il faut savoir qu'aussi, Garcia, tu m'écris, c'est parce que, en fait, c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, nous pouvons, on va dire, collectivement agir. Mais, agir sur le collectif, mais à titre individuel, en clair. C'est-à-dire que, en balançant un simple caillou, encodé, mais véritablement encodé, et correctement, et avec un code pur, eh bien, à ce moment-là, comme Masaru Emoto, ou un truc comme ça, hein, son nom, je n'arriverai jamais à m'en rappeler véritablement, eh bien, il suffit qu'il y ait un code suffisamment pur. Alors, si vous mettez de l'eau, elle va se diluer avec le temps, et donc perdra de son intensité, surtout que l'eau, par ailleurs, est, je le rappelle, le support d'information de tout ce qui se passe sur la planète. C'est pour ça qu'elle va du ciel jusqu'à la terre et à l'intérieur. Donc, Mama Urantia Gaia, c'est exactement tout ce qui se passe en chacune de vos cellules, parce que c'est l'eau qui lui dit. Donc, concernant cela, eh bien, attendez, j'essaie de relire un peu la question. Eh bien, il est prévu que tous les cours d'eau, enfin tout ce qui est possible de faire, de balancer une pierre dedans. Parce que la pierre, elle se dilue pas. C'est comme une disquette, vous pouvez la lire ou un disque dur. Vous pouvez la lire 1 million de fois, on s'en fout, puisque l'information est codée à l'intérieur et non pas à la surface. Donc, de ce fait, ça veut dire que toute l'eau va progressivement, on va dire, prendre des nouveaux codes. Et c'est pour ça que je parlais de l'eau de 5D, 6D, car il a été donné à un certain nombre de personnes sur cette terre le code, on va dire, pour pouvoir le faire. Alors, ce code a été donné à des individus qui sont bien sûr, on va dire, dignes de confiance dans un premier temps, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'utiliser à des fins commerciales. Donc ça, c'est déjà très limitant pour sa commercialisation, puisqu'il ne doit pas y avoir, il ne doit y avoir aucune commercialisation. Donc ça, c'est le principe du service. Et donc, je pense que vous commencez à connaître la musique. Donc, cette information, une fois codé dans le minéral, et ce minéral se trouvant dans n'importe quel ruisseau, dans n'importe quel lac, enfin partout où il sera, eh bien les aides de la nature vont le prendre, hein, donc les aides de la nature qui sont dans l'eau, hein, c'est-à-dire tous ceux qui apportent la vie à l'eau véritablement, c'est-à-dire les ondines, et puis bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres, eh bien viennent chercher ces informations et vont le répandre partout où il y a l'eau. Alors il est évident que cette propagation se fera d'autant plus qu'il y ait des vortex à proximité, soit à proximité du cours d'eau, soit carrément dans le cours d'eau. Car je vous rappelle que l'eau est conductrice, donc les vortex aiment beaucoup, on va dire, l'eau. Et d'ailleurs, généralement, ils donnent leur maximum quand à la rosée du matin, enfin je veux dire que quand il y a la rosée du matin, ils se réveillent nettement mieux. Ils sont beaucoup plus puissants en cours de journée. Donc, les vortex améliorent énormément la propagation, on va dire, du code source. Alors, l'avantage du minéral, je le répète, c'est que ce code source est infatigable, inusable, et on ne peut pas lui dire. Donc, c'est parfait. Or, comme vous pouvez l'imaginer, je vais pas prendre quand même mon bâton de pèlerin et balancer un caillou dans toutes les mares et tous les fossés et tous les cours d'eau de France et de Navarre, et ainsi de suite, parce que j'y arriverai pas. Et donc c'est là qu'intervient la force du nombre, la force de tous les gens qui se disent « Si nous arrivons à élever le niveau de l'eau en lui redonnant un code source de 5D, 6D, eh bien elle va, bien sûr, comme c'est de l'eau, prendre cette information. Et en prenant cette information, elle va progressivement purifier. Et en purifiant, bien sûr, le milieu, eh bien, elle va aussi permettre de faire que tous les gens qui boiront de l'eau, même si c'est de l'eau qui vient du robinet, eh bien, quand l'eau de source est codée correctement, eh bien, elle arrivera tôt ou tard, on va dire, dans les verres de tous les humains. Comprenez cela. Donc, si chacun dans son coin décide, on va dire, de purifier, on va dire, le coin en balançant des cailloux un peu à droite à gauche, eh bien, ça va créer une différence tôt ou tard. Et donc, c'est une façon de faciliter, on va dire, l'ascension de Maman Rutyagaya, mais aussi de l'humanité. Car quand quelqu'un boit une eau qui est encodée en 5D6D, eh bien, automatiquement, son corps est, on va dire, hautement en gratitude, et donc parce que ça l'aide à pouvoir, bien sûr, bosser. Vous voyez, hein, donc derrière cela. Alors après, la question qui reste, c'est comment ça va s'organiser. Moi, je peux lancer des idées, je peux lancer un certain nombre de choses, mais je ne peux pas être celui qui va balancer des cailloux dans tout le cours. Je vais le faire, mais je pourrais pas faire toute la France et tout le. D'accord. Et c'est là que vous intervenez. Donc, pour répondre à Garcia, eh bien, effectivement, je donnerai de plus en plus d'informations par rapport à tout ça. Nous allons déjà, dans un premier temps, faire un premier essai avec une personne qui a bien voulu commander des cristals de roche pour que je puisse les encoder correctement, à l'intérieur. Et les gens qui désireront ces cristaux pourront se les procurer à prix coûtant, hein, puisque l'objectif, je vous rappelle, c'est de ne faire aucun business. Mais bon, on ne peut pas quand même payer la poste en disant au postier, écoute, je te donne un bout de cristal de roche et puis tu m'envoies la lettre, quoi. Ça, pour l'instant, ils ne savent pas faire encore. Donc, il faut quand même encore payer les timbres. Donc, le cristal de roche, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus pur, on va dire, d'une certaine manière, au niveau de la structure cristalline, dans le sens où ils sont capables d'encoder sur beaucoup de fréquences différentes. Ça, c'est une première chose, et je l'ai fait aussi pour l'eau de boisson, dans un premier temps. Ensuite, nous avons fait des essais sur des cailloux qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher et qui sont disponibles partout. C'est-à-dire que ça s'appelle du gravier. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit du granit, hein, pour bien faire. Eh bien, quand vous avez du gravier, vous savez, du granit ou des petits cailloux, les galets vont ramasser sur la plage, sur certaines plages, bien sûr, eh bien, ça, c'est facile à encoder. Le problème, c'est que je peux pas mettre ça dans mon cagoule parce que ça pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, ce qui veut dire que lors de mes prochains déplacements, eh bien, si les gens veulent vraiment participer, ils viennent avec un seau rempli de cailloux. Voilà. Et donc, on encodera les pierres directement sur place. Et après, ils pourront repartir avec leur seau de cailloux et après faire la distribution partout où ils trouveront des cours d'eau, quelque chose. Alors, s'il y a deux cailloux qui sont balancés dans le même lac, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors, par curiosité, je suis allé voir un vendeur de gravier, quoi, pour le bâtiment, et j'ai été voir les différentes tailles qu'il avait, et il y a ce qu'ils appellent le 11-22, c'est-à-dire entre 11 mm et 22 mm, et j'ai dit, mais ça coûte combien? Il m'a dit, ça coûte 25 euros la tonne. Donc, on peut dire que le support est quasi gratuit. Voilà, donc, tout le monde, tous les gens qui pensent que c'est intéressant de le faire, peuvent le faire. Simplement, pour l'encodage, eh bien, il faudra qu'on se déplace physiquement parce que on peut pas encoder à distance, c'est pas possible. Il faut qu'on soit présent. Voilà. Question 2. Auparavant, je considérais que les nuisances des antennes relais situées sur les châteaux d'eau constituaient une vraie problématique. Je pensais à l'époque poser des autocollants avec ondes de forme puissante ou poser des objets adéquats sur les antennes ou les châteaux d'eau. Mais aujourd'hui, je considère que traiter son eau de manière technique puis sensible rend cette problématique secondaire. Ton avis là-dessus? Alors, il est évident que l'eau étant un support d'information, que balancer littéralement les antennes sur les châteaux d'eau est du meurtre à l'état pur. C'est-à-dire que c'est quasiment au chouïd, enfin tout ce que vous voulez, c'est du meurtre à l'état pur. Donc, quand vous buvez de l'eau qui arrive du château d'eau, dites-vous bien que vaudrait mieux boire encore l'eau de Tchernobyl, ça ferait moins mal. Alors, elle peut être cristalline, ne vous fiez pas aux apparences. elle peut être cristalline, mais l'information qui est dedans est excessivement destructive. Donc vous pouvez mettre les filtres à charbon actif, avec céramique, tout ce que vous voulez, vous allez la traiter chimiquement, ôter les amibes, tous les microbes, virer le chlore, c'est déjà pas mal tout ça, on est d'accord. Mais l'information qui est dedans, ben ça vous ne pourrez pas la retirer avec un filtre à charbon actif. Donc, même si c'est une information qui est, on va dire, superficielle au niveau de l'eau, d'une certaine manière, mais l'eau n'est pas un cristal dans le sens solide du terme, c'est-à-dire qu'elle bouge, donc il y a énormément d'informations, elle a énormément de contacts, donc elle prend énormément d'informations par rapport, on va dire, à la masse. Et donc, la pire de toutes les saloperies qui puissent... C'est comme si on disait, bon, écoutez... On balancerait un déchet radioactif dans la citerne, ça ferait pas mieux. Ça ferait quasiment la même chose. Donc c'est vraiment très très embêtant. Alors, ça peut être, on va dire, une problématique secondaire, dans le cas où, effectivement, que toute l'eau que vous allez boire ou dont vous allez utiliser pour la cuisine soit réencodée. Et ça, c'est possible. Avec un minéral encodé. C'est-à-dire que, aujourd'hui, moi, maintenant, la chose que je ne faisais pas depuis au moins 10 ans, c'était prendre de l'eau du robinet, à part la vaisselle, la lessive, les toilettes, on est d'accord, mais jamais, jamais, au grand jamais, boire de l'eau du robinet. Eh bien, maintenant, je peux me permettre de le faire, puisque maintenant, avec les cristaux, on a vu toute la différence. Hein? Alors, c'est pas des cristaux achetés dans les magasins en disant, voilà, il y a ceci, il y a cela, ou encodés avec des méthodes remontant de l'Atlantide et tout ça. De ce côté-là, je préviens, il y a beaucoup, beaucoup de marchands du temple, et bah, c'est simple. Évitez au mieux que vous pouvez. Voilà, donc, je crois avoir répondu à cette deuxième question. Le problème est secondaire si vous traitez le problème à l'arrivée. C'est sûr que traiter le problème au départ, c'est mieux, mais dans ce cas-là, avant que les administrations et que les tour opérateurs disent non, non, on va tout démonter parce que c'est pas bon, je crois que là, c'est une bataille perdue d'avance. Donc, voilà. La troisième question, connais-tu ou as-tu eu l'occasion d'expérimenter les codes d'activation proposés par Yann Mitnick ? Car je les utilise depuis quelques mois et j'ai constaté qu'ils sont particulièrement puissants. Alors, effectivement, les codes proposés par Yann sont, on va dire, d'une qualité robuste et puissante. C'est clair. Là, je lui fais de la publicité, oui. Le seul truc, c'est que, pour l'instant, il n'a pas la capacité de l'encoder dans à l'intérieur du cristal et de le rendre définitif. C'est-à-dire que tout l'encodage qui est donné est bon, mais il se diluera avec le temps. Donc il faut encoder régulièrement, régulièrement et régulièrement. Donc il a, comme dirait l'autre, un bout de la solution, mais il n'a pas l'autre bout. Hein. Voilà. Donc il faut comprendre que ces codes que Yann a reçus sont les mêmes que nous avons reçus. Donc voilà. Donc ce sont des codes puissants, oui. Simplement, la différence, c'est que de mon côté, entre guillemets, on m'a donné l'autorisation de pouvoir les encoder directement dans le cristal. Parce que je ne fais zéro business. Yann fait des stages. Voilà, maintenant vous savez la différence. Une question de Mativé. Tu parles de triton. Alors, entre guillemets, entre parenthèses, l'animal. Une idée toute simple m'est venue. Pourquoi ne pas encoder un cristal et le déposer à la source de chaque ruisseau, rivière, fleuve? On a toujours un copain de la famille aux quatre coins du monde, ainsi la terre serait vite boostée. Eh ben voilà, Mativé, tu as tout compris. C'est-à-dire que si chacun s'y met, eh bien, ça va aller très vite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un triton, c'est un être de la nature. Qui appartient à l'invisible et qui a pour fonction de nettoyer. Effectivement, non. Donc il nettoie l'eau, il va pas ôter forcément le chlore, les machins, des saloperies comme ça, mais il a la capacité de désencoder. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire il a la capacité d'ôter l'information contenue dans l'eau et qui est, on va dire, visible au vivant. Donc c'est un nettoyeur, d'une certaine manière. Bon, c'est voilà pourquoi quand nous encodons de l'eau, avant même de l'encoder, eh bien, nous demandons à nos petits tritons de faire un petit tour dans le verre d'eau ou dans la bouteille, et là, je peux vous dire que ça vous change la vie assez rapidement, hein, puisque le côté énergétique de l'eau fait un bond alors que vous n'avez rien fait. Ça, toutes les conférences, les mini-conférences, les rencontres, parce que c'est pas des conférences, parce que les conférences, c'est payant. Je rappelle, il y en a qui me rentrent dedans et disent « Ouais, on comprend pas, t'es dans le non-business et pourtant tu fais des conférences. » C'est qu'ils se mettent dans la tête que les conférences sont payantes. Les miennes ne sont pas. Donc, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a rien à payer. Donc, c'est pour ça que on va dire des rencontres. Et donc, à toutes les rencontres que j'ai fait en Bretagne, nous avons tout simplement démontré tu mets un verre d'eau, quel que soit, même l'eau du robinet, même tout ce que tu veux. Et puis on fait passer le criton dedans, et tu vois tout de suite que les unités bovis se grimpent très 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 vite, juste à ôter l'information involuante qui est dans l'eau. Juste ça. Alors après, quand on codifie, là, ça booste nettement plus fort. Mais bon, la meilleure façon d'avoir la preuve en direct est de venir à mes rencontres, et puis comme ça, comme dirait l'autre, tous les saint Thomas pourront regarder en direct, quel que soit... on va dire leur conviction, parce que tant que ça reste du baratin, de l'écrit, du blablabla, de la webcourse, du ouais, ils se jouent de tous ces trucs là simple. On prend un verre d'eau, une bouteille, on est là, vous prenez votre pendule, et puis nous on fait nos trucs, et puis vous allez voir comment votre pendule va réagir. Rien d'autre. Puis si vous n'êtes pas fatigué du pendule, vous prenez le verre d'eau ou la bouteille, vous allez le vider dans le lac d'à côté, puis vous verrez ce qui s'est passé, et ce qui se passera. Vous voyez, c'est pas... il n'y a pas besoin d'argumenter. Les preuves, elles vous seront apportées en direct. Une question de bébé. Ce dont tu parles de faire avec les cristaux, a-t-il un rapport avec la demande de Little Grand Mother? Ce message date de mars 2011. Quand on met les crins dans un ruisseau, non, alors on a parlé de plusieurs trucs. Alors j'étais lire... il faut savoir que le lien vers lequel elle renvoie de la page web sera bien sûr publié sur le site, et donc je vous enjoins d'aller le lire parce que c'est une vérité criante. Il a été écrit donc en mars 2011, donc c'est pas tout neuf, et c'est criant. Aujourd'hui, c'est l'heure de le faire parce que maintenant, il est possible de le faire via, on va dire, l'encodage définitif de cristaux. Qui n'était pas le cas à cette époque. C'est-à-dire que si ça avait été fait à cette époque, eh bien, ça aurait été déjà un bon commencement. Mais la chose n'aurait pas duré longtemps. Là, maintenant, elle peut durer longtemps. Alors ensuite, bébé a une autre question. Quand on met les crânes dans un ruisseau, mer, font-ils le même travail que ces cristaux? La réponse est non. Parce que eux, quand vous les mettez dans un ruisseau, d'abord, ils se nettoient, c'est-à-dire ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vident toute la crasse qu'ils ont en eux. Parce que si tu as un crâne de cristal et tu travailles avec, eh bien, il faut savoir qui récupère un paquet de ta crasse, et il faut bien qu'ils se lavent de temps en temps. Donc, la première chose qu'ils font, c'est d'abord se laver, se savonner, se décrasser. Quand vous les mettez dans l'eau douce, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour eux, ils adorent. Se nettoyer, c'est vrai que c'est agréable. Alors que l'eau soit à 2 degrés ou qu'elle soit à 15 degrés, ils s'en foutent complètement parce que d'une certaine manière, la température, ils s'en foutent. Par contre, je tiens quand même à signaler qu'il y a des chocs thermiques. Et donc, si votre crâne est à une certaine température et que vous trempez dans une eau qui est trop forte différence de température, là, il risque d'avoir des soucis dans le sens que certains ont déjà de grandes failles en eux, et donc ça précipite et ça casse. Donc, nous avons, par rapport à certains crânes nous ont dit, moi, si la température de l'eau n'est pas, enfin, si la différence est trop grande, tu ne me mets pas dans l'eau, parce que je sais que ça va casser. Donc, nous avons eu reçu cette information, et donc maintenant, quand je trempe mes crânes dans l'eau, c'est toujours une eau qui est à température, jamais chaude et pas froide, qui est à température, et si je le mets au soleil, bah, l'eau monte, mais eux, ils montent en température avec, donc il n'y a pas de choc thermique, car les chocs thermiques sont quand même un très gros problème pour eux. Premièrement. Ensuite, quand vous les mettez dans l'eau de mer, alors ils ne se nettoient pas dans l'eau de mer, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais une fois que vous les sortez de l'eau de mer, il faut les rincer à l'eau, enfin à l'eau douce, parce qu'ils sont collants, enfin parce que l'eau de mer est un plasma, d'une certaine manière. Et donc ce plasma possède énormément de vie. Et donc quand on les trempe dans la mer, c'est comme si vous leur mettiez un disque dur infini en termes de capacité, c'est-à-dire qu'ils peuvent savoir tout ce qui se passe sur Terre, puisque dès que vous le mettez dans la mer, tous les océans sont reliés, et tous les océans, bien sûr, sont reliés aussi au cours d'eau. Donc ils peuvent savoir, ils se connectent dans un océan infini d'informations. Et là, c'est pas pour se laver qu'ils vous demandent de les mettre dans la mer. C'est simplement pour jouir du spectacle complet d'une information infinie sur Urantia, Gaïa et Lua. Et ça, c'est vraiment... c'est extraordinaire pour eux. C'est extraordinaire pour eux. Donc, quand on met les crânes dans un ruisseau ou dans la mer, eh bien, ils ne font pas le même travail que les cristaux qui sont inconnus. Parce que d'abord, ils n'ont pas le code source. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Ils n'ont pas le code source. Le code source est donné, entre guillemets, à des créateurs incarnés. Je rappelle que les esprits castellans font partie du décor. Et donc, ils n'ont pas le droit de prendre des initiatives. Donc, ils n'écriront une information dans un minéral qu'à deux conditions. Un, qu'ils aient l'autorisation de pouvoir écrire. Et deux, que ce soit un créateur incarné qui délivre l'information. Donc ils ne peuvent prendre aucune initiative d'encodage de quoi que ce soit. Donc si vous trempez vos crânes dans un ruisseau, dites-vous bien qu'il ne va pas encoder le ruisseau, il va simplement se laver dans le ruisseau. Voilà. Alors là, il n'y a plus de questions maintenant. Alors, une question de Denise. Denise, moi je l'ai demandé le dopage et j'ai pas eu de réponse, c'est normal. Bien. Bon, là on quitte le mot. Alors, j'ai écrit, il faut lire les articles, que devant le nombre de demandes importantes, je ne répondais pas, mais que tout le monde était accepté. Donc, je ne donne aucune réponse pour dire « Ah oui, j'ai bien reçu ton petit email de demain. » Ça, j'ai pas le temps. Donc, par contre, votre demande a été prise en compte, puisqu'elle l'est automatiquement. D'accord ? Donc, ne t'inquiète pas, Denise, t'es déjà dans les tuyaux. Alors, une question de Bruno. Laurent, peux-tu nous parler de problèmes de tendons, d'articulation ou de problèmes musculaires ? Car là, ça s'accentue vraiment pour moi. Alors, il faut savoir que la partie cristalline de ton être est justement ton squelette, tes cartilages et tes muscles. Donc, t'es en grosse cristallisation, c'est-à-dire que pour l'instant, ton corps est en train de réorganiser la musique. Donc, c'est bon, c'est mieux. Voilà. Hein? C'est normal. Une question de Calestra. Laurent, tu parles que cette vibration doit être normalement permanente en nous. Après une pause alimentaire, mon corps m'a réclamé de l'eau. J'ai bu cette eau avec conscience, beaucoup d'amour. Quelques secondes plus tard, je ne pouvais plus marcher tellement c'était fort. C'est cela que tu appelles déboucher les tuyaux. Alors, ce que je voudrais dans les questions, là, parce que là, tu parles de cette vibration. Doit être normalement permanente en nous. De quelle vibration parles-tu ? C'est ça, moi, là, le problème, là. Mais des questions comme ça, c'est... je ne sais pas de quelle vibration tu parles. Donc, je suppose que ça doit être après la vibration qui touche, on va dire, le champ cognitif et intuitif. Donc effectivement, quand ton corps commence à pétiller d'une certaine manière, ça vibre. Et donc il est évident que tu verras que quand tu boiras une eau qui a été énergétisée et codifiée correctement, ça va pétiller à mort. Et d'ailleurs, généralement, les dernières personnes qui sont passées à la maison, à qui on a offert un verre d'eau, ils n'ont pas pu boire. Ils ont pris petite gorgée par petite gorgée, ils ont mis au moins une heure pour boire le verre d'eau, parce que pourtant il faisait chaud, il faisait au moins 35 degrés dehors, parce que tout simplement l'eau était tellement énergétisée que à chaque gorgée, ils prenaient des décharges, enfin je veux dire, ça vibrait sur toute la carcasse, et ils étaient plus dans l'extase, en se disant « Oh putain que ça fait du bien », mais ils ne pouvaient pas en prendre plus. Effectivement, de toute façon, dites-vous bien qu'en tant que créateur incarné, à chaque fois que vous aurez une pensée, une intention et un don du cœur vis-à-vis de l'eau, de toute nourriture qui contient de l'eau, principalement, eh bien vous verrez que votre corps va frétiller. Une question de Tara. Mais si, en tant qu'humain, on a été cristaux et minéraux, nous avons été codés de l'intérieur déjà? Oui, bien sûr. Le truc, c'est que depuis lors, nous nous sommes encrassés, déconnectés. Et donc, nous avons chargé dans notre cristal intérieur, on va dire, des tas d'informations involuantes. Et donc, si aujourd'hui, nous n'avons pas la maîtrise de notre corps de manifestation, c'est parce que nous avons perdu ce contact avec nous-mêmes, donc avec le code source. Donc, quand on dit « retourner à la source », nous n'allons pas physiquement aller à trois années-lumière d'ici, pas du tout. Nous allons simplement vers le cristal que nous sommes et que nous avons toujours été. Et quand je dis le cristal, c'est l'esprit cristallin, mais incarné dans une matière. Et donc, ce cristal a un nom. Il s'appelle l'ADN. Et donc, votre ADN contient toute l'information. Le problème, c'est que nous avons déconnecté quasiment la totalité, enfin, quelque chose près. Sur les 12 brins, il n'y en a plus que 2, et sur les 2 qui restent, il y en a 97% qui ne servent à rien. Donc, résultat concret, ça ne fait plus beaucoup, là. Donc, oui, toute l'information est encodée en toi, tu as tous les codes sources, le problème, c'est que tu ne peux pas y accéder. Tu ne peux plus y accéder. C'est comme si tu avais un disque dur qui était tombé en rade, hein, qui est en panne, et que tu ne peux plus te connecter à ce disque dur. Ça ne veut pas dire que l'information a été effacée. L'information est toujours sur le disque dur. Mais tu ne peux plus y accéder. Donc, en allant vers la source, en se reconnectant à nous-mêmes, dans la réalité, nous allons nous reconnecter au code source, c'est-à-dire à ce que nous avons été et toujours été. Voilà. Donc, quand tu bois de l'eau avec du code, entre guillemets, on va dire du code pur, en 5D6D, eh bien tu vas te faire qu'accélérer ta reconnexion à toi-même. Parce que le disque dur, entre guillemets, il n'est pas en panne. C'est que tout simplement la tête de lecture est tellement encrassée qu'elle ne peut pas y aller. Donc, par une eau, on va dire réencodée correctement, eh bien ça va faciliter les choses. Alors il n'y a pas que l'eau, mais c'est un élément essentiel pour l'être humain, car nous sommes sur une planète d'eau. Une question de Bruno. C'est notre eau intracellulaire qui est de prime abord importante pour notre corps. Donc, si l'eau que nous buvons n'est pas assez pure, elle ne pénètre pas dans nos cellules. Non ? Alors, il faut comprendre deux choses. Il y a, on va dire, quand l'eau, parce que l'eau a des molécules d'eau, on va dire, d'une certaine manière, et il y a, comment dire, l'eau, une granulométrie, c'est-à-dire un diamètre. Hein, imagine l'eau comme si c'était des billes. Simplement, il y a des grosses billes, il y a des billes moyennes et il y a des petites billes. Donc déjà, dans un premier temps, il est bien d'avoir une eau qui est purifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chlore, parce que le chlore, c'est plus une bille, c'est un ballon de foot, carrément. Donc déjà, l'eau est purifiée par un filtre, on va dire, généralement céramique, avec derrière un petit côté, on va dire, charbon actif, ça permet déjà de dégager tous les éléments qui sont dans l'eau, et qui n'ont rien à y faire. Donc ça, c'est déjà une opération purement mécanique. C'est mécanique. Parce que si l'eau n'est pas nettoyée mécaniquement, de toute façon, elle ne pénétrera pas à l'intérieur des cellules. Donc, qu'elle porte de l'information ou pas, changera pas trop la donne. Alors, ça va changer un peu. C'est évident que si tu as de l'eau non nettoyée qui porte une information, l'information va quand même arriver à transiter un peu. Mais les molécules d'eau ne pourront pas rentrer dans la cellule. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'information elle-même. Donc, si l'information est merdique, et que tu as un appareil de filtration d'enfer qui fait que tu as que des toutes petites billes qui peuvent rentrer à l'intérieur de la cellule, tu dis c'est super, oui, l'eau rentre dans mes cellules, donc c'est super bon. Oui, mais l'information est absolument dégueulasse. Alors, tu vas me dire, entre une eau bien codée qui peut pas rentrer dans les cellules et une eau qui peut rentrer dans les cellules mais qui est mal codée, quelle est la meilleure? Ben, la meilleure, c'est déjà que l'eau soit bien encodée, même si elle pénètre pas, parce que les cellules, d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours quelques petites billes qui arriveront quand même à passer. Mais imagine que tu cumules les deux. C'est-à-dire que tu aies une eau qui soit correctement filtrée, qui permette une géométrie à l'eau, hein, je pense qu'il y a assez de baratin sur Internet concernant tout ça, qui est nickel chrome pour pouvoir arriver à l'intérieur de les cellules, mais avec une structure cristalline, on va dire correcte, hein, c'est-à-dire harmonieuse, imagine si elle est encodée avec un code pur. Et ben là, c'est bingo, c'est jackpot. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la cellule a exactement ce dont elle a besoin. Elle va avoir des messagers qui arrivent directement à l'intérieur, au cœur même de la cellule, et qui aura le meilleur code qui puisse être donné, on va dire, pour qu'elle se construise selon les nouvelles géométries de 5D6D. Donc, quand j'entends les baratins de bisounours qui me disent « Ouah, c'est encore des trucs 3D, il faut acheter des trucs et des machins, ça doit être gratuit », l'information est gratuite. L'information est gratuite. Mais si tu me donnes de l'eau de robinet et que j'encode l'eau de robinet va continuer à, on va dire, à véhiculer toutes les saloperies qu'il y a là-dedans. Le chlore et tout, toutes les saloperies. D'accord? À quoi ça sert, comme dirait l'autre, de dire, je vais essayer de donner du bon code dans un tas de fumier qui va rouler quoi? Non, déjà, tu dis, on éclaircit un peu l'eau de la mare, là. On va faire quand même que on ôte tous les agents pathogènes et toutes les saloperies que le corps ne veut absolument pas avoir. Et puis, ensuite, à ce moment-là, on peut quand même encoder. Donc, dans l'article que j'ai écrit récemment, cette semaine, j'ai dit, c'est sûr, que acheter un filtre avec charbon actif, c'est pas gratuit. Parce que si vous voulez un filtre que vous pouvez installer vous-même, bien sûr, eh bien, il y a quand même des gens qui l'ont fabriqué, ce filtre. Et généralement, ils ne travaillent pas gratuitement. Il a fallu du charbon actif, il a fallu fabriquer la céramique, il a fallu assembler tout ça, il faut mettre les raccords, parce que bien sûr, ça vient sur les tuyaux. Et ça, c'est pas gratuit, ça. Alors, quand on me sort des conneries pareilles, de se dire « tout devrait être gratuit », ben, tu sais, moi, mon kangourou va bientôt tomber en rade, là, il commence à avoir un compteur kilométrique assez important. Si je dis non, je suis dans le service, il faut me donner une bagnole, neuve, si possible, avec la clim, faut vraiment être bisounours pour penser comme ça. Je souligne ce genre de fait parce que ce sont des réflexions. Excusez-moi, mais c'est bête, c'est d'une bêtise, d'une idiotie, mais vraiment, des fois, on se demande si ce sont effectivement des gens avec un cerveau qui sont en train de te parler. Bon, maintenant, il y a apparemment plus de questions. À même Brigitte m'en remettre un peu, parce que je vois que dans les commentaires, il semblerait qu'il y en ait, mais que je ne veux pas prendre directement pour la court-circuiter. Alors, une question de cœur aimant. Encodage des cours d'eau et des mares, d'accord. Mais pour un fleuve comme la Loire, on fait comment? Eh bien, là, il y a des solutions, on va dire, plus radicales. Alors déjà, il faut savoir que la Loire est d'abord constituée d'un certain nombre de rivières qui elles-mêmes sont alimentées par des petites rivières, qui elles-mêmes sont alimentées par des sources. Donc si déjà tu alimentes tous les petits cours d'eau, tôt ou tard, le grand, il va se les ramasser. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, la deuxième, et ça c'est un travail, on va dire, qui pour l'instant n'est pas possible par le nombre, hein, c'est, je l'annonce tout simplement, c'est d'encoder les ponts carrément. C'est-à-dire que il existe encore des anciens ponts de pierre qui traversent certaines rivières ou certains fleuves. Et comme l'eau circule, je veux dire, à passer les ponts, eh bien tu encodes les piliers du pont. Et donc là, on est loin d'encoder un petit cristal de roche peinard dans un coin et en mettant dans sa bouteille d'eau. On passe à un autre niveau, là c'est du marteau pilon carrément. Et ce marteau pilon, eh bien c'est, on va dire, une de mes missions supplémentaires pendant mes déplacements. C'est-à-dire que là, eh bien, je vais, avec Corinne, bien sûr, encoder tous les ponts qu'on va trouver. Alors, pas tous, parce qu'on va quand même essayer de laisser un peu d'espace entre les ponts quand même, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais dites-vous bien que, effectivement, il y aura les principales rivières et fleuves de France qui seront faites tôt ou tard, car de toute façon, nous devons retourner sur le terrain pour continuer à réparer la grille cristalline et à relancer, activer, réparer certains vortex qui doivent alimenter le cordon de Léon. Donc, et ceci en même temps, faire les rencontres le soir. Donc ce sont des journées garanties, vous pouvez le constater. Alors, une question de Bruno, mais alors pourrais-tu nous dire comment encoder l'eau? Eh bien, c'est simple, c'est pas possible. Parce que ce n'est pas une histoire de propriété, on va dire, de dire « Ah, j'ai des neurones, donc je devrais y arriver, ceci et cela ». Ce n'est pas du tout cela. C'est-à-dire que c'est une histoire de fréquence. Et tant que vous n'aurez pas atteint une certaine fréquence, eh bien, vous ne pourrez pas encoder. C'est-à-dire que, grosso modo, tant que vous n'aurez pas les pieds dans la 5D et que les entités qui vous délivre l'autorisation d'avoir ce code, entre guillemets, verront que vous êtes véritablement en service, alors à ce moment-là, ils vous donneront cette possibilité. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, un certain nombre de personnes peuvent encoder l'eau. Bon, pour l'instant, la majorité, enfin, je veux dire la totalité, ne peut pas le faire d'une manière définitive, parce qu'ils ne sont pas encore assez impliqués, on va dire, mais... Nous, concernant moi et Corinne, pour l'instant, on a démontré suffisamment notre engagement, et donc nous avons cette possibilité de l'encoder au fin fond du cristal lui-même. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc pour l'instant, il est évident que c'est un peu gênant, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais j'espère qu'un certain nombre de personnes vont nous rejoindre dans cette affaire, c'est-à-dire d'abord, monter en fréquence, monter en fréquence, monter en fréquence. C'est nous, on n'a pas demandé à avoir tout ça. Je veux dire sincèrement, moi, vous savez, je suis pas du tout dans ce genre de truc. Et je veux pas dire je ne voulais pas. C'est qu'on nous a dit voilà un cadeau, mais à côté voilà la mission que vous devez faire. Voilà. Donc comme derrière l'autre, c'est un cadeau. Enfin, comme on pourrait dire dans notre jargon, c'est un cadeau empoisonné. Quoi. C'est-à-dire que ça a l'apparence d'un cadeau, mais derrière, c'est tu vas au turbin et tu continues. Voilà. Donc, pour l'instant, on ouvre le chemin, puisque nous sommes les ouvreurs de chemin, mais en espérant sincèrement qu'on pourra déléguer ce genre de choses le plus rapidement possible. Donc, si Bruno, tu veux effectivement nous aider à recoder l'eau, eh ben, la première de toutes les choses à faire, c'est de monter en fréquence, monter en fréquence, monter en fréquence. Et si, effectivement, tu atteins la fréquence nécessaire, t'inquiète pas, tu auras donc généralement un guide, puisque bon, on peut pas monter en fréquence tout seul, mais ça, faut oublier cette affaire. Quand ton guide sentira que tu tiens la route et que tu as vraiment la fréquence, à ce moment-là, les êtres de la nature, c'est-à-dire ceux qui sont capables de pouvoir te donner cette autorisation, eh bien, se présenteront à toi parce qu'ils diront « Ah, enfin, un humain qui s'est réveillé et que sur lequel on va pouvoir compter. » Donc, nous, on peut pas te dire comment encoder l'eau, puisque on nous a donné cette capacité sans savoir comment qu'il faut faire. Donc, on peut pas savoir comment on va le transmettre, puisqu'il n'y a rien à transmettre. Vous allez, voilà, tu pointes les doigts à la direction d'eau, et puis tu dis, voilà, ton intention, j'encode. Ça marche. vois pas qu'est-ce que je pourrais t'apprendre de plus. Toi, tu peux essayer. Le seul truc, c'est que le code source, tu ne l'as pas. Et moi, et Corinne, on nous l'a implanté dedans, et on ne sait pas d'où ça sort. On a dit, de toute façon, t'as l'intention, tu fais, ça marchera tout seul, c'est en automatique. Bon, d'accord. Voilà, tu vois, c'est quand on travaille avec, quand on est au service, ils savent très bien que ils ne donnent pas l'information comme ça, et s'ils la donnent, c'est qu'il y a des tas de sécurité et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. De toute façon, une chose est claire, c'est que s'il y avait la moindre notion de business de ma part à ce niveau-là, l'autorisation d'encodage serait supprimée. Voilà. Ça va pas plus loin que ça. Une question de 1000. Bonsoir Laurent. À quel niveau de rayonnement sont dues les brûlures, peau rouge et texture chair de poule sur la peau au niveau du sacrum, les fesses, la pomme d'Adam et sur d'autres parties du corps? Écoute, je vais pas dire, mais il faudrait presque que je sois un toubib pour pouvoir te répondre. Je n'en sais rien du tout. Rien. Voilà, je peux pas te répondre. Voilà, je suis désolé. Une question de Michael. J'ai vu que l'eau qui venait du robinet était complètement déstructurée à cause des chemins que prend l'eau dans les tuyaux. Est-ce vrai? Et comment le filtre résout-il ce problème? Merci. Alors, d'abord, effectivement, l'eau suit... Alors, d'habitude, je sais pas si vous regardez l'eau dans les rivières ou tout ça, elle suit un chemin, mais elle y va à sa vitesse. Hein. Donc, elle est contrainte, mais sans véritablement l'être. Par contre, dans les tuyaux, elle est mise sous pression, et là, elle est mécaniquement sous contrainte. C'est-à-dire que l'eau de la rivière coule par la simple fait de la gravitation. Dans les tuyaux, c'est pas la gravitation qui fait tourner les choses. Donc, effectivement, l'eau est soumise mécaniquement à des contraintes qui est contraire à ce qu'elle est. Donc, elle est encore plus déstructurée que l'eau qui coule naturellement. Donc, le filtre ne résout pas ce problème directement, mais il y a d'autres appareils qui lui permettent de se restructurer. Et cet appareil s'appelle un vortexeur, c'est-à-dire quelque chose qui va introduire un mouvement de vortex, c'est-à-dire un mouvement hélicoïdal, qui va faire que de telle manière que ce mouvement, puisque c'est un mouvement qui est absolument la copie conforme de tout ce qui se passe en termes énergétiques dans tous les univers et à tous les niveaux, dans toutes les dimensions, eh bien l'eau permet de se restructurer. Donc ce n'est pas le filtre qui résout la déstructuration. Le filtre est là pour filtrer, hein, c'est-à-dire pour ôter tous les éléments indésirables. Mais ensuite, restructurer l'eau, eh bien la meilleure méthode connue jusqu'à maintenant reste le vortex. Entre autres. Après, il y en a peut-être d'autres, je ne connais pas tout par cœur, on est d'accord. Mais c'est le vortex, c'est-à-dire d'introduire un mouvement circulaire à l'intérieur de nous. Donc, j'ai appris récemment que ce sont des choses qui se rajoutent en bout de robinet, ou soit, pour certains, ils mettent ça à l'arrivée d'eau générale du bâtiment, enfin du bâtiment de la maison, et qui fait que ça restructure l'eau. Alors, c'est pas donné. Hein. Là, les bisounours, ils vont hurler. Parce que c'est pas donné. Hein. C'est pas donné du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, faut être fortuné. Je le regrette, mais faut être fortuné pour se payer ce genre de choses. Voilà. Une question de Dominique. Jacqueline Bousquet nous disait qu'il suffisait de dire à votre verre d'eau, en conscience, bien sûr, je t'aime. Qu'en penses-tu? Eh bien, dis-toi bien que ce Jacqueline avait parfaitement raison. Mais ceci a une portée limitée quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu dis je t'aime à ton eau que tu vas ôter le chlore qu'il y a dedans. Ce n'est pas en disant je t'aime à l'eau que tu vas désencoder l'information merdique qu'il y a dedans. Ce n'est pas en disant « je t'aime » à l'eau que tu vas la restructurer. Par contre, en disant « je t'aime » à l'eau, ça sera toujours moins pire que si tu dis rien. Parce que, en disant « je t'aime » à l'eau, tu utilises ton pouvoir créateur. Et ton pouvoir créateur va pouvoir effectivement aider, puisque c'est de l'amour pur, en fait. Donc tu envoies de l'amour. Mais, comme dirait l'autre, cet amour ne peut pas tout faire. Enfin, contrairement à ce que tout le monde pourrait dire comme ça, parce qu'il est limité par rapport à des bandes de fréquences. C'est-à-dire que quand tu dis « je t'aime », on peut dire que l'aspect éthérique de l'eau va changer. Mais l'aspect mécanique, l'aspect atomique, lui, ne changera pas. Donc, le truc, quand on dit, par exemple, dans la méthode que j'ai donnée lors de mon dernier article, le feu du cœur, bah, le feu du cœur, c'est dire « je t'aime ». Simplement, le dire avec ta tête, tu le dis avec ton cœur, donc c'est plus puissant. Hein? Alors, bien sûr, mettre après une étiquette sur le verre, mettre une fleur de vie au fond de la carafe, tout ça, ce sont que des petits trucs superficiels qui font quelque chose, on est d'accord. Mais ça reste limité. Alors, si dans ta carafe, au fond de la carafe, tu as effectivement une fleur de vie, tu dis c'est sympa. Alors, imagine que cette eau soit restructurée, qu'elle soit, enfin, on va dire vortexée, qu'elle soit énergétisée, qu'elle soit encodée pure, et qu'elle soit totalement filtrée nickel chrome, c'est sûr que si en plus tu écris je t'aime, et que tu leur balances un coup de feu du cœur, je vais te dire que l'eau, là, c'est de l'eau de vie. Donc, il n'y a pas un ou deux paramètres à regarder, il y en a plein. Mais il y a quand même des paramètres qui sont plus gros que les autres. Donc, si on dit « faut repeindre l'usine et tu vas à la lime à ongles », entre guillemets, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, ce que je veux dire, il y a beaucoup de petits artifices à droite à gauche, ça fait quelque chose, mais c'est quand même relativement infime par rapport à d'autres méthodes, parce que si tu sors quasiment la ponceuse électrique, tu iras quand même plus vite qu'à l'aliment. Donc il y a bien sûr une ponceuse, ça coûte plus cher que l'aliment. Une question de Julien. Bonjour, j'aimerais que le roman Laurent éclaire ma lanterne. J'ai 18 ans et depuis plusieurs années, j'ai envie de prendre la route avec les dessous que j'ai. Je n'ai absolument plus aucune envie de faire mon petit BTS, puis d'avoir un travail, etc. Cette envie de tout quitter est de plus en plus forte au point de parfois ne plus en dormir. Et je vois que parmi certains de mes amis proches, qui ont eu aussi fait quelques petits pas sur le chemin, la même envie commence à naître alors que l'on n'en a quasiment jamais parlé. Voilà. Je n'arrête pas de cogiter là-dessus. J'aimerais savoir si c'est juste une envie de fuir ou un réel besoin qui pourrait me faire avancer. Alors, la question, la réponse est simple. C'est que tout simplement, les nouvelles énergies, hein, t'es encore jeune, c'est-à-dire t'as pas été encore profondément gravé et marqué, on va dire, au fer rouge pour l'instant par la société, eh bien ton corps est simplement en train de monter en fréquence, et forcément ta petite voix, enfin tu commences à sentir que ce monde de 3D, de dire je fais mon BTS, je vais aller au boulot, je vais devenir un mouton en attendant la retraite et le cimetière, ça joue pas. Et donc il te dit, fais autre chose, mais pas ça. Alors s'il faut que tu prennes ta bagnole, tes pieds, que tu fasses du stop, n'importe quoi, casse-toi ailleurs. Parce que ceux qui vont te faire le plus chier dans l'affaire, c'est ceux qui te disent « il te faut un BTS pour gagner ta vie ». Parce que nous, on n'a pas envie de continuer à te payer comme ça pendant que tu glandes. Enfin, j'ai résumé là, hein, mais c'est à peu près ça. Donc, quand tu prends ta valise et tu te casses ailleurs en disant bah, « je suis en balade », tu n'es pas obligé d'aller au Népal pour fumer un joint, hein, on est d'accord, hein, ça c'est du New Age, mais... aller voir ailleurs suffit déjà généralement à pouvoir s'éloigner des lourdeurs de certains liens qui vous obligent à suivre une voie que vous savez qui n'est pas et qui n'est plus, on va dire, adaptée au nouveau monde. Donc, si tous les copains n'en parlent pas, c'est qu'ils n'osent pas en parler. Mais si tu en parles ouvertement, ou quand je dis ouvertement, tu prends tes copains un par un et tu leur dis, tu sais, moi j'ai envie de tout laisser tomber, je sens si, tu vas voir que vous ressentez tous la même chose, mais vous n'osez pas l'exprimer extérieurement en disant, on va le faire, parce que le reste on n'a rien à foutre. Donc, pour l'instant, c'est un travail qui est souterrain et que vous allez progressivement découvrir au fur et à mesure que les années vont passer. Les mois. Donc, il est évident qu'à 18 balais, tu ressens les énergies plus fortes parce que ton corps, s'il avait 50 ans de plus, réagirait moins bien. Donc là, lui, il suit la musique. Donc comme il suit la musique, ben, suis-le. Tout simplement. Donc, t'as pas envie de faire ton BTS, ben, tu dis merci, au revoir. C'est aussi simple que ça. C'est, faut le faire. Ben, faut le faire. À ta vitesse, selon les trucs que tu peux faire, que tu ne peux pas faire, que... Voilà. Et c'est vrai que sans reporter quelquefois sa petite voix et ben, sur les autres, entre guillemets, des fois, ça demande un brin de courage. Et, enfin, moi, je veux dire, à 19 ans et demi, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis cassé. Pourtant, je travaillais, hein, déjà. Donc, je me suis cassé dans un autre pays à l'étranger. Je disparais de la circulation, je veux même plus parler la langue natale, je veux parler une autre langue pour être sûr que, comme ça, on va pas me faire chier avec, oh, t'as vu les expressions que tu utilises et les machins? J'ai dit, on change tout. Langage y compris. Et donc, ça a été radical. Et quand je suis revenu à la maison, on va dire un an et demi plus tard, j'ai fait de la remontée des deux, ils m'ont pas vraiment reconnu, quoi. Ils me disaient, tiens, c'est pas le mec qu'on connaissait avant. Mais j'étais libre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient pu projeter sur moi, eh ben, ils pouvaient plus faire parce que j'étais quelqu'un d'autre. J'étais devenu un grand garçon, on va dire, qui avait ses idées, ses trucs et ses machins. Et d'ailleurs, ils ont vu tout de suite la différence. Je leur ai dit, papa, maman, je mange que du homme. Ça leur a fait mal, mais bon. C'était ma vie, c'était pas la leur. Hein? Voilà, donc, à toi de voir comment tu peux jouer. Bien, je vois que Brigitte me dit que c'est la fin des questions, donc je vais m'arrêter là, et je vous souhaite une bonne continuation, et je reviendrai, bien sûr, sur le problème de l'eau, avec des solutions, on va dire, les plus pragmatiques possibles, et surtout, les moins coûteuses possibles. Mais je pourrais pas, je m'appelle pas Jésus, je pourrais pas fabriquer des filtres au charbon actif parce que je le veux. Ça, c'est, j'en suis pas encore à ce stade, je suis désolé. Si je pouvais faire, je le ferais. Croyez-moi, je le ferais. Merci. Allez. Au revoir à tous.